Vous écoutez Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne et nous sommes ensemble de midi à 13h. Lussas, commune de l'Ardèche, qui reçoit depuis 1989 les états généraux du film documentaire, un événement porté par Ardèche Images dont le but est de promouvoir le film documentaire. La programmation met à l'honneur des cinéastes et cette année, Arthur Aristakizian, Swann Dubus ou encore Robert Fulton. Cette programmation permet de découvrir des pépites étrangères. Par exemple, cette année, un pan du cinéma yougoslave par la programmation Histoire de Doc. Une semaine de projection du matin au soir sur 5 sites et des rencontres avec les réalisateurs. Et le soir, sous les étoiles, un ciné plein air. On y voit le travail de documentaristes aguerris comme celui d'étudiants. Il y a aussi des séances jeunes publics et l'incontournable Nuit de la radio proposée par la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. C'est aussi un lieu où les professionnels du cinéma documentaire se retrouvent pour parler boutique, comment produire un film quand on n'a pas d'argent, créer des liens entre réseaux, s'inspirer et s'entraider. Pour certains, il s'agit d'un cinéma élitiste qui concerne quelques passionnés plutôt de gauche. Et pourtant, c'est bien un cinéma qui entend parler sans phare du monde qui nous entoure, même si on note cette année un certain nombre de propositions liées à l'autobiographie. Parler de soi pour mieux parler des autres. Nous avons eu le plaisir de croiser Jean-Pierre Thorne qui présentait son film « L'âcre parfum des immortels ». Bonjour Jean-Pierre Thorne.
Bonjour.
Alors vous êtes ici à Lussas pour présenter votre film « L'âcre parfum des immortels ».
Je l'ai présenté aux rencontres cinéma de Jandou devant un public énorme, 500 personnes.
Alors là, quand même, vous disiez le soir de la projection que vous aviez une émotion particulière quand même de le présenter à Lussas.
Oui, oui, ben, c'est parce que, bon, d'une part, Jean-Marie Ouvray et Jean-Marie Barbe, c'est pour moi un grand monsieur qui a fait à l'origine de Lussas, mais c'est aussi d'être programmé par Lussas, c'est pour moi une histoire de famille. Voilà, mes films précédents sont passés ici, du dos au mur, Affaire qui fait des anges, On n'est pas des marques de vélo, c'est tous des films qui sont passés ici. Et donc, je trouve qu'il y a un attachement à Lussas qui est un attachement, voilà, aussi, on voit sans arrêt leur progression, le public de plus en plus jeune qui vient. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Et donc, d'être ici, c'est d'une part un honneur, et puis c'est le sentiment d'apporter sa pierre à la construction d'un projet, d'une utopie formidable, quoi. Voilà.
D'ailleurs, vous parliez de transmission à cette fameuse programmation,
hein, oui.
On y reviendra quand on parlera un peu plus de votre film. Donc vous le dites, le public de Lussas change. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cette idée de transmission? Est-ce que c'est un lieu de transmission, Lussas, aussi?
Ah ben oui, 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 bien sûr. Enfin, moi, si vous voulez, ce qui a toujours fondé mon travail, c'est le fait de dire qu'il est absolument vital de transmettre. Le rôle du cinéma, c'est sans arrêt d'éviter que la mémoire se perde, la mémoire des luttes ouvrières, des luttes passées, des luttes des femmes que j'ai pu filmer dans ma vie, des luttes des copains de la culture hip-hop qui luttent pour justement, qui résistent à un système qui sans arrêt les exclut. Et voilà, et aujourd'hui, les gilets jaunes, voilà, des ronds-points qui n'ont pas la parole. Et donc, pour moi, le fait qu'il y ait un lieu comme ici qui transmet cette mémoire, c'est quelque chose d'absolument vital. Parce que je reprends, je ne sais plus si je l'ai dit dans le débat, mais je reprends toujours une phrase qui guide mon travail, qui est celle dans le livre du rire et de l'oubli, qui dit « Pour liquider un peuple, on commence par lui retirer sa culture, ses livres, son histoire, et quelqu'un d'autre leur écrit une autre histoire. » Et le peuple oublie tout doucement qui il était. Et je pense qu'on est en France, enfin depuis un certain nombre d'années, dans un phénomène d'éradication de l'histoire populaire, de l'histoire... Et une autre histoire est écrite, l'histoire écrite par les vainqueurs. Or, c'est justement, il faut à tout prix garder la mémoire de l'histoire des vaincus. C'est vital pour le transmettre aux jeunes générations. Ce que moi j'ai pu, là, ça dépasse ma personne. Ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance, j'avais 20 ans, 68, d'aller vivre dans les piquets de grève de Flins, qui était vraiment une chance inouïe de pouvoir entrer une caméra, de vivre à leur rythme et d'écouter leurs propos, de les capter. Et aujourd'hui, de pouvoir amener ma caméra sur le rond-point de Montabon avec des gilets jaunes et me rendre compte que c'est les mêmes personnes. Moi, quand j'ai filmé, j'ai vraiment eu le sentiment que je filmais les mêmes personnes. C'était très, très émouvant, très fort pour moi. Et je voulais leur rendre ça, qu'on n'oublie pas que ce mouvement vient de loin dans les classes populaires, de ras-le-bol du néolibéralisme, du capitalisme. Il y a un ras-le-bol de la vie chère, les gens n'arrivent plus à finir les fins de mois, et ils n'ont plus la politique, les méprise sans arrêt. Et justement, je trouve rappeler ces luttes, rappeler cette histoire, ici à l'USAS, à toute une jeunesse qui est avide de faire le point eux-mêmes pour leur propre action, je trouve pour moi c'est capital. Ça explique peut-être sans doute l'émotion que j'avais de présenter le film. En plus, en nocturne, sous les étoiles, c'est le pied, quoi.
Alors, vous espérez qu'il y ait des jeunes caméras militantes qui sortent du lot, enfin, qui sortent de l'USAS, vous attendez ça ?
Oui, bien sûr. Évidemment. J'ai pas eu le temps de voir tout ce qui est fait ici par le DESS, et je serai je suis toujours très attentif et à l'écoute. Et je sais que, par exemple, ma monteuse vient de l'USAS. Elle avait été en formation ici. Et je trouve que c'est super que tout ce qu'elle m'a apporté vient sans doute aussi de la qualité de la transmission de ce qui a été fait à l'USAS.
Alors ce film, L'âcre parfum des immortels, comment vous aimeriez le définir, le présenter à quelqu'un qui ne l'a pas vu ?
C'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour pour une femme qui m'a construit, qui a disparu au lendemain de 68. Et en même temps, en revenant sur son histoire à travers ses lettres, je reviens vers tous les gens que j'ai filmés dans ma vie. Enfin, pas tous, mais aux différentes étapes de mes films, il y a des figures qui m'ont plus marqué que d'autres et que je retrouve aujourd'hui pour voir si, comme moi, ils n'ont pas oublié leur passion. Et leur passion qui les animait. Mes copains ouvriers syndicalistes à l'usine Alstom, où j'ai travaillé 8 ans après 68. Mes copains du hip-hop, le mouvement est maintenant pris une grande extension, mais en même temps est un peu victime de son succès par les institutions culturelles, par la pub, par les sponsors et tout, comment ils gardent intact leur rage du début. Et puis, pour moi, la grande merveille, c'est qu'au milieu du montage de ce film, que j'ai démarré il y a 6 ans, j'aurais jamais pu penser que l'histoire allait plus vite que moi et que les Gilets jaunes arrivent sur la scène française. Et du coup, c'était un sacré choc.
Connais un côté, n'en font pas.
Comment vous l'avez construit ce film ? Alors, est-ce que vous êtes parti de cette histoire d'amour, en fait, du souvenir, des photos, des lettres de votre aimé ? Ou est-ce que c'est les souvenirs d'abord des copains qui sont venus ? Comment vous avez agencé tout ça ? Comment vous avez construit la narration ?
Bon, c'est un film très écrit avec un scénariste, Pierre Chausson, enfin un scénariste réalisateur avec lequel j'ai eu envie de collaborer, qui a été vraiment à mon écoute parce que j'avais trop de choses dans le cœur et dans la tête. Il fallait m'aider à trier et trouver la construction d'un récit au milieu de tout ça. Et donc, bien sûr, il y avait les lettres. Donc moi, je lui faisais des propositions de choix de certaines lettres. Et après, de voir l'articulation des lettres d'amour avec les personnages que je retrouvais, quel lien il y avait et comment chaque lettre m'amenait à retrouver un personnage différent. Donc tout ça a pris quand même une bonne année d'écriture, puis aussi de recherche avec une assistante, Agnès Vanger, qui travaille toujours sur mes films, pour retrouver les personnages. Certains, j'avais gardé les coordonnées, d'autres, j'avais un peu perdu de vue. Je ne savais plus leur téléphone ou comment les contacter. Et donc, on avait même espéré retrouver des ouvriers que j'ai filmés en 68 à Flins. Ça, par contre, on n'est pas arrivé à retrouver ceux que j'avais filmés. Et donc, il y a eu un gros travail de développement, recherche, bon, avec l'aide de Brouillon d'un rêve, de la SCAM et du CNC, une aide de développement et de développement renforcé, qui m'a permis vraiment de financer le travail de Pierre Chausson, et d'Agnès pour aller sur le terrain et trouver les acteurs de mon film. Voilà. Après, c'est au feeling, il y a des gens, j'ai trop de gens, il y avait une liste de 50 personnes que je voulais retrouver, et j'en ai gardé, je crois, que 8, parce que c'est pas la peine non plus de... Des fois, il faut savoir aller à l'essentiel et pas garder tout. Enfin, c'était pas possible, c'était tout simplement. C'était un feuilleton, quoi.
Comment on fait cohabiter tous ces matériaux ? Parce qu'il y a aussi des extraits de vos films précédents. Il y a de la voix, il y a même de la musique, je crois, par moment. Comment vous avez réussi à tisser tout ça ensemble ? On voit les photos aussi ?
Oui. Pas souvent, les photos, parce qu'on les découvre petit à petit. D'abord, son visage est caché. On la voit, des photos que j'ai faites à l'époque, en 68, dans la chambre qu'on habitait. On la découvre dans la dernière séquence du film. Donc il y a une évolution dans le film, avec les doutes aussi au milieu d'une histoire d'amour qu'elle pouvait avoir à des moments donnés. Et chaque fois, par rapport à ces doutes, par exemple, on essaye d'articuler ça avec les doutes aussi qu'on sent dans les luttes sociales. Donc c'est sans arrêt une espèce de... un chemin de... j'allais dire d'une histoire d'amour, hein, de l'émerveillement du début à les contradictions et moi le regret aussi de ne pas avoir plus associé à mon travail en 68 parce qu'elle m'a porté de la pellicule cachée sous son pull parce qu'on était cerné par les CRS autour de Flins et donc il y a eu des combats vraiment avec des ouvriers, des jeunes militants, Gilles Totin qui sont morts noyé après une charge de police à Melun. Donc elle m'a porté de la pellicule et je regrette, enfin je le dis dans le film, de ne pas l'avoir plus associée à mon travail. Où j'étais encore, d'ailleurs elle m'engueule dans une lettre sur mon machisme. Et je trouve ça, je l'ai laissé justement, je trouve ça important. Et c'est des copines du hip-hop qui répondent à cette lettre. Elle est en colère contre moi, signée suffragette. Et je trouve les copines, les suffragettes d'aujourd'hui, qui sont des nanas géniales, Nasser Aguera, Aniki, Jackson, qui sont des danseuses qui transmettent le hip-hop, et justement dans des conditions souvent très difficiles, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance... institutionnels de leur travail, elles le font presque à titre bénévole. Nasera est infirmière à côté, Aniki travaille dans une entreprise et toujours elles sont là et je les ai filmées il y a presque 20 ans. Sa fille qui a 16 ans a pratiquement l'âge de notre première rencontre et aujourd'hui elle est toujours là et c'est sa fille qui est dans ses cours, c'est génial quoi. Et c'est ça moi qui m'a plu, c'est aussi de voir comment tous ces gens que j'ai filmés ne renient rien. Ils en ont pris plein la gueule. Ils ont une grande lucidité face à un système qui continue à ne pas les exclure, à les mépriser. Et pourtant, eux, ils sont là avec leur joie de vivre. Et c'était pour moi essentiel, quoi. Parce que comme j'essaye de faire vivre Joël, le nom de mon aimé qui a disparu... Et ça me tord le cœur que j'ai pu la laisser si longtemps dans le silence. C'est comme une histoire que je ne voulais pas révéler. J'ai mis quand même presque 50 ans pour arriver à me décider à faire un film sur elle. De la même manière, tous les gens que j'ai filmés n'ont rien renié de leur passion. Et simplement, souvent, ça a évolué et c'est ça, c'est très intéressant. À un moment donné, quand je vois Farid Berki, qui habite sur les frontières entre la Belgique et... Enfin, qui est né et qui a eu sa petite enfance sur la frontière, comment il dit ça enrichit son enfance, et puis lui, en tant qu'artiste, d'être toujours le cul entre deux frontières, quoi. Je l'appelle l'homme des frontières. Et justement, Farid danse sur Stravinsky maintenant, tout en ayant à fond une énergie hip-hop et je trouve que c'est des gens formidables parce qu'ils ont su ne pas non plus simplement rééditer ce qu'ils ont été mais continuer à progresser, à inventer. Et comme Joël, que j'aimais, était très lié à la danse, voulait faire de la danse, je pense que, enfin, elle aurait été comme moi bouleversée par la découverte du solo que j'ai filmé de Farid dans mon précédent film Faire kiffer les anges en 95, et aujourd'hui je retrouve Farid presque 20 ans après et il est toujours là avec ses exigences et son enrichissement lié à ses et ça c'est formidable, voilà.
Qu'est-ce qui nous fait courir, qui nous pousse à écrire, ce qu'on veut nous c'est l'ouvrir pour grogner et cracher.
Cette banlieue, elle n'est pas maudite, mais elle est malléable, transformable à merci.
Donc, je suis un gars du 93, J'ai embrassé, épousé la culture hip-hop.
Un DJ, c'est un militant. C'est comme ça qu'il peut nourrir les gens avec des choses qu'ils entendront nulle part ailleurs.
Eddie, réveille-toi, tu dors depuis des heures. Prends-moi, tu ferais mieux de sortir au labeur.
J'étais chaudronnier, mais j'étais aussi musicien. J'ai commencé.
J'ai l'impression que cette jeunesse-là avait besoin de quelque chose et cette musique-là correspondait à une nouveauté.
Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive le fou.
Des nuits au commissariat à se faire savater par des flics.
On peut
pas en parler,
Alors vous dites que finalement Nacera répond à la lettre de Joël.
Oui.
Vous dites que Joël aimait la danse et qu'elle aurait été bouleversée parce que vous avez filmé. Finalement, elle ne vous a jamais quitté, elle est dans tous vos films.
Oui, c'est aussi ce que j'ai découvert, bien sûr. J'ai découvert que tous les gens que j'allais voir, en fait, étaient liés d'une manière ou d'une autre à ce qu'elle m'a laissé. Et c'est pour ça que c'est un grand hommage à elle, parce que je m'aperçois qu'elle a construit ma vie quelque part et elle continue à vivre par-delà la mort, et c'est ça qu'on raconte mon film. De même que je pense que 68 continue à vivre par-delà la mort.
Donc 68 vit sur les ronds-points maintenant.
Oui, pour moi, oui. Et justement, je tenais vraiment à faire ce rapprochement, parce qu'il y a eu trop de saloperies débitées par les médias, en caricaturant ce mouvement. C'est Macron qui a tout, Castaner et tout ça, ont vraiment sans arrêt, non seulement utiliser la violence pour essayer de les détruire, avec le nombre de mutilés qu'on a aujourd'hui, et je m'étonne que la France réagisse pas plus. Je suis en rage contre la politique actuelle menée par le gouvernement, et en même temps aussi de dénaturer leur mouvement en prétendant que c'est des antisémites, c'est des fachos. Vraiment, quand on voit les personnages que j'ai filmés à Montabon, on aurait du mal à penser que c'est des fachos, quoi. C'est des gens qui parlent écologie, qui parlent l'avenir de la planète, qui parlent la nécessité de se refaire à l'histoire ouvrière. Le jeune Nicolas que je filme dit mes parents, ils ont dû se battre pour pouvoir vivre dignement, paisiblement. 20 ans après, 68, 2018, 50 ans après. Tout est à refaire, quoi. Voilà. C'est ça qui m'a intéressé. C'est que justement, de les réintroduire dans l'histoire sociale de ce pays et qu'on arrête de considérer qui est vraiment la propagande du pouvoir aujourd'hui est insupportable.
Solène, tu as une question peut-être sur cette séquence ?
Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Nous le peuple qui passe cet après-midi.
Le film
Nous le peuple.
Non, justement, je suis resté pour le voir.
Parce qu'ils ont été filmés dans trois endroits différents, vraiment là pour le coup, trois entités différentes, où les gens se réapproprient vraiment la Constitution et la réécrivent et la construisent ensemble. Donc ça me parle. Et j'avais juste une question. Est-ce que le film était déjà fini avant du coup le mouvement des Gilets jaunes et qu'il a pris du coup un nouvel essor après ou pas? Et est-ce que ça m'a fait penser à un film pareil qui sort en octobre de Jean-Gabriel Perriot, du coup Nos défaites, que j'ai beaucoup aimé.
Avant que je l'ai pas vu.
Ouais, parce qu'il avait pareil, il y a une mise en scène, enfin il a été filmé dans un lycée et le film était fini et il a rajouté une séquence après le montage avec cette séquence des lycéens à Mantes-la-Jolie. Et le film prend encore un nouvel essor avec cet épilogue-là. Donc je voulais savoir, du coup, si le film était fini et vous avez rajouté cette séquence de Gilets jaunes et qui prend le film prend un autre essor avec, quoi.
Et j'ai découvert le mouvement des Gilets jaunes, j'étais en fin de montage. mais j'étais encore en montage, donc on a interrompu 15 jours le montage pour que j'enquête, pour savoir où je voulais tourner. Et bon, je connaissais en fait un journaliste, j'avais lu son article et j'ai trouvé son portable et, qui était sur qui faisait des articles, donc qui était un correspondant de l'UMA sur le rond-point de Montabon. Et j'avais trouvé ces articles passionnants parce qu'ils parlaient justement de leur réflexion sur les assemblées citoyennes. Et moi, je lui disais, mais moi, toutes ces réflexions, c'est la Commune de Paris. Donc j'étais fasciné par ça. Et je suis vraiment allé à Montabon, aussi parce que c'était des femmes qui dirigeaient ce mouvement. Et du coup, je trouvais passionnant, je les ai fait parler sur cet aspect-là. Voilà. Et donc, disons que ça modifiait, mais je l'ai intégré complètement à la structure du film. Parce qu'à l'origine, je devais simplement revenir sur 68 à travers une tempête. Et donc j'attendais une tempête qui n'est jamais arrivée pendant que je tournais au début. On avait réservé 2 jours de tournage pour les filmer la tempête dans les Landes. Et quand il y a eu les Gilets jaunes, on a dit, allez, on bascule les moyens qu'on a pour encore tourner. Ça nous a fait prendre un peu de retard au tournage, au montage, mais bon, voilà. Et je suis heureux parce que du coup, ça donne un espoir au film. Ça, voilà. Heureusement, enfin. Mais c'est ça qui est fou, quoi, parce que quand moi je l'ai écrit, j'ai démarré il y a 6 ans, tout le monde me disait, mais tu rêves. Enfin, tout le monde était dans un discours extrêmement défaitiste. Et moi, non, je ne voulais pas accepter. Et je voulais rester avec un espoir de l'avenir, quoi. Que non, on pouvait faire autrement. Non, ce n'était pas inéluctable qu'on accepte le libéralisme, à quel point il détruit la nature, la vie. J'acceptais pas comment le mouvement syndical a perdu sa rage de combattre. Donc c'est un film pour un peu réveiller et qui devait se terminer en terminer comme je l'ai fait là sur 68 à un moment donné. Mais j'ai jamais imaginé qu'entre-temps il y avait un mouvement social d'une telle force. Et donc c'est un vrai bonheur finalement d'avoir actualisé le film, de leur avoir donné la parole pour continuer ce que j'ai filmé. Voilà.
Le danger maintenant de la reconnaissance, c'est pas de danser sur des plateaux, parce qu'on en a marre de danser aussi toujours dans la rue, quoi. On a envie d'avoir des conditions de travail normales. Le plus important, c'est de ne pas être là où on nous attend, quoi. Parce qu'en fait, ce qui serait le plus simple, le plus rassurant, c'est que finalement, on vienne les gens du hip-hop soient des gens gentils, quoi. Et ça n'a aucun intérêt, quoi. Parce que c'est quand même c'est une culture rebelle et c'est un mouvement vraiment rebelle, quoi, qui est là pour faire changer des choses et qui est là pour provoquer et pour transgresser un certain nombre de choses, quoi. C'est clair que quand on est tous identifiés avec un look, une casquette, les grosses baskets, les musiques que tout le monde connaît bien, que tout le monde chante, c'est pas très dangereux. On peut nous cataloguer, on peut nous identifier, voilà, ils sont bien ça, ils sont gentils, ils bougent pas pendant ce temps-là, quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, on développe rien du tout. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de provocation, il n'y a rien qui avance, en fait. Et ça, c'est un danger, quoi. Et souvent, les gens, ils ont tendance à croire que quand tu vas explorer dans d'autres disciplines, sur d'autres musiques, et même quand tu commences à mélanger avec d'autres modes d'expression, tu perds ton âme, t'es plus hip-hop. Et en fin de compte, ils n'ont rien compris, quoi. Pour moi, le hip-hop, c'est vraiment c'est une culture d'échange avec les autres, quoi. C'est un truc tolérant et positif, quoi, qui développe quelque chose. En fait, c'est toujours un aller-retour entre la culture de départ, le quartier d'origine et là où on veut aller. L'important, c'est de pas se couper des deux, quoi, de rester libre, d'avancer et en même temps garder toujours un retour sur la base, quoi.
Et qu'est-ce que peut changer le hip-hop ?
Ah, c'est une dure question, quoi. Bon, il y en a qui pensent que ça pourra foutre le feu, quoi. Mais ce que ça peut changer, c'est le regard à la société, le rapport à la culture, le rapport à l'argent, le rapport au travail. Que les gens se rendent compte autour qu'il y a des gens qui, à partir de rien, développent une culture et développent des disciplines artistiques qui sont créatrices et qui font vraiment évoluer les gens alors que les institutions n'ont pas été capables de le faire. Et comment est-ce que des institutions et des gens qui pensaient tout savoir, qui développent des mesures gouvernementales et tout, pensent savoir ce que c'est, pense savoir exactement ce qu'il faut pour que les gens du peuple ils avancent. Et en fait, ils sont au courant de rien, ils n'ont rien calculé. Ils se sont rendus compte que les gens du peuple se sont démerdés d'eux-mêmes, ils ont développé eux-mêmes un truc d'une force incroyable et qui les fait vraiment avancer, quoi. Et pour moi, foutre le feu, c'est ça, quoi. C'est d'avoir cette arrogance d'aller danser sur des scènes de théâtre et sans casquette, quoi.
Mais alors, je suis très contente de vous entendre dire qu'il y a de l'espoir dans ce film, parce que moi, j'ai cogité très longtemps après l'avoir vu, parce qu'au contraire, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose d'amer, en fait, de déçu dans les propos des danseurs hip-hop. Ils disent, on est toujours, on vient toujours d'où on vient, et même si on a rêvé de s'en sortir en étant bon, en travaillant, en fait, ça ne marche pas. Et les jeunes qui viennent du même endroit, viennent toujours du même endroit, mais ils sont encore plus en colère, et malheureusement pour eux, eux non plus, ils n'arriveront pas à. Je trouvais ça assez juste et assez triste de se dire, alors en fait, finalement, pour que les choses avancent ou pas, il faut toujours compter sur la génération suivante, tout en sachant très bien que non plus, ils n'y arriveront pas. Il y a un côté triste.
Non, moi, je pense pas que c'est un film triste, et il faut être réaliste, voir... Enfin, moi, je m'appuie souvent sur ce titre, sur le titre splendide qu'a trouvé Plenel sur son bouquin qu'il a fait sur analyser le mouvement des Gilets jaunes. Il l'appelle « La victoire des vaincus ». Et vraiment, pour l'instant, le mouvement social est écrasé par la violence de l'État. Mais moi, j'ai espoir que ça lance les germes d'un autre mouvement encore plus fort. Et je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir sans regarder le passé pour justement ne pas faire les mêmes erreurs. Quand Nordine explique que voilà, on a voulu nous faire croire que c'est en faisant du rap, du slam, que la société allait changer. Et en fait, on voit que c'était une voie de garage dans laquelle on a mis le hip-hop en lui faisant jouer un rôle qui n'était pas le sien. Je trouve que c'est formidable que Nordine ait cette lucidité de le dire. Et donc, moi, je dis que c'est un film qui est dur, mais en même temps, qui est plein d'amour et d'espoir, parce que j'ai confiance que le peuple va tirer les leçons de toute cette histoire pour reconstruire autre chose. Comme moi, je ne peux pas oublier la femme qui a marqué ma vie. Donc, ça veut dire que ils auront beau nous envoyer des grenades LBD, nous essayer de nous faire peur et tout ça, il n'en demeure pas moins qu'on lâchera pas l'affaire, quoi.
Bon, eh bien, merci. Alors, est-ce que vous voulez nous dire où est-ce qu'on pourra voir ce film ? Parce que vous partez en tournée, je crois.
Écoutez, oui, ça c'est compliqué. Là, je le passe à Charlieu mardi pour toutes les salles de Rhône-Alpes. Pour ensuite sortir, je ne sais pas lesquels le prendront, j'espère faire une avant-première à Grenoble au Méliès. Là je reviens de Jindou, il y a plein de salles qui sont déjà mises sur les rangs, donc on va voir comment ça s'organise. Je vais à Toulouse donc le 26 et 27 septembre, le 26 à la Cinémathèque pour présenter Faire kiffer les anges avant Beat Street, qui est pour moi le film mythique du mouvement hip-hop, donc je suis super fier d'être faire la première partie de Beat Street, et ça s'est organisé par la Cinémathèque, mais avec un danseur local qui est très célèbre, qui s'appelle Abdul Jouri, et en fait on va fêter les 35 ans du hip-hop à Toulouse, et on fait l'avant-première le 27, donc un vendredi, de L'Acre Parfum, des Immortels, à l'American Cosmographe. Voilà. Donc j'attends beaucoup de choses de cette avant-première en septembre, 26 et 27 donc. Et ensuite j'espère faire justement une avant-première au Mans. C'est en discussion de mon distributeur avec des gens des Gilets jaunes du voilà, et puis de la salle d'arrêt et c'est du Mans. L'avant-première du film aura lieu le 15 octobre au Méliès, où je réunis tous les protagonistes de mon film, parce qu'il n'y a pas que les gens que j'ai filmés, il y a aussi tous les artistes qui m'ont apporté leur contribution. Je pense à Mélissa Lavaux, que je tiens vraiment à saluer, parce que c'est une grande dame de la chanson qui a fait ce disque magnifique qui s'appelle Radio Sewell, qui sont des chants anti-impérialistes, contre l'impérialisme américain, haïtien, et qu'elle a chanté en créole. Et moi, j'avais vu son interview sur Mediapart, et je me suis dit, mais elle a une voix extraordinaire, mais c'est elle qui sera Joël. Et je l'ai contactée par l'intermédiaire de Gaëlle Faye, et ça a été très simple, finalement. Elle a tout de suite dit oui, elle a lu le scénario, elle a dit oui. Donc c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, et elle n'a pas vu le film encore, et voilà. Donc je pense que tout... Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé des musiciens. J'ai quand même l'immense honneur d'avoir fait faire la musique par Serge Tessoguet dans les deux groupes qu'il dirige, enfin qu'il anime, qui sont Interzone, et l'autre avec un guitariste chinois, Xie Yugang, qui s'appelle A Nano World. Et pour moi, c'est un des plus grands guitaristes aujourd'hui, qui vient de Noir Désir, mais qui justement s'est relié à Kazé dans le rap. Et moi, je l'avais filmé dans 93, La Belle Rebelle, avec Kazé, et parce qu'il voulait retrouver la rage initiale du rock. Et moi, la musique qu'il fait sur mon film, c'est trop beau, quoi. Ça m'a vraiment aidé à construire le montage. J'ai souvent construit le montage à partir de sa musique, voilà. Et donc, le solo final de Nash, quand les mots peuvent plus tout dire, le corps le dit, quoi. Et Nash est une danseuse de crump. Absolument formidable, et qui a fait un solo qui dure 40 minutes, qui s'appelle Cellule. Et là, je lui ai demandé de le réduire à 4 minutes pour terminer mon film. Et elle est belle parce qu'elle part de le crump, c'est une rage contenue qui est théâtralisée pour l'expulser, et elle s'ouvre au monde. Et c'était vraiment, pour moi, je lui disais, c'est la danse de la résurrection que tu nous fais. Et voilà, elle l'a fait avec un toupet pas croyable sur le sol d'une usine où c'était dur. Hein. Mais les gens du crump, ils n'ont pas peur.
Alors, ce sera sur quoi vous travaillez en ce moment, Jean-Pierre Thorne ? On imagine quand même que vous allez faire d'autres films. Alors, c'est quoi le prochain ?
Vous savez, quand on fait un film comme ça, ça vous marque tellement. C'est quand même une part de moi que je livre. Je crois que c'est très différent de mes autres films. Parce que beaucoup de copains m'ont reproché de me cacher derrière ma caméra. Là, je me mets à poil. Hein. Je dis beaucoup de choses. C'est pas facile pour moi, forcément. Je vais voir comment le publier. Mais il va me falloir un certain temps pour m'accepter. Ça, c'est sûr qu'après, je serai un autre Jean-Pierre, je pense. Et je vais voir sur quoi j'irai. Pour l'instant, j'y pense pas. Je ne pense qu'à une chose. C'est que ce film soit vu, qu'il ne dorme pas sur des étagères, parce que toutes les télés ont refusé. Arte, qui me soutenait jusqu'à présent, a refusé. L'avance sur Recette Cinéma, alors que c'était vraiment un film vraiment écrit pour le cinéma, qui a été sélectionné deux fois par les lecteurs et deux fois la profession, parce que c'est mes collègues qui l'ont refusé sur le thème que... pourquoi la deuxième fois, c'était la première fois, c'était vous parlez pas assez de Joël, donc j'ai réécrit. La deuxième fois, c'était oui, mais qu'est-ce que vous avez besoin de parler de l'histoire sociale, c'est pas possible, il faut parler d'une seule chose, parler que de votre histoire d'amour, ça c'est beau. Et là, j'ai refusé de le réécrire, quoi. Donc je le fais grâce à des tout petits réseaux, hein, Lyon Vosges TV, Lyon Capital Télé, et puis des régions qui ont bien voulu me soutenir, la région Aquitaine, ici Rhône-Alpes, parce que j'avais l'ouverture sur Lyon Capital Télé, ça me donne... Et puis, sur le scénario, la Haute-Normandie m'a aidé, et puis il y a eu plein de solidarité d'un lieu qui s'appelle Périphérie, à Montreuil, qui est un lieu essentiel pour le documentaire, qui nous aide... En nous laissant des salles de montage, je suis quand même resté pratiquement 6 mois dans la salle de montage avec ma monteuse. Et donc, il fallait ce temps-là pour digérer, pour trouver l'articulation du film, les charnières entre l'histoire d'amour et l'histoire sociale. Et voilà, et je dois aussi ce film à tous les contributeurs. Il y en a 257 qui m'ont apporté les 20 000 euros qui me manquaient pour le finir. Et si j'avais pas eu cette aide, le film se faisait pas, quoi. Donc c'est vraiment un film que je dois à les gens qui soutiennent mon travail. Je leur en suis infiniment reconnaissant. Et c'est pour ça je me dois aussi d'aller les rencontrer, de leur apporter le film, de les dialoguer avec eux. Et donc, quelque part, ça m'oblige, quoi.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Thorne.